devient long, hein, ce pote. Il en a rentré des milliers dans sa vie, mais celui-ci est le plus important.
Et c'est fait dedans. Bravo. Akshay Bhatia qui remporte son troisième succès sur le PGA Tour à 24 ans. Le plus beau tournoi de sa carrière, l'Arnold Palmer Invitational, après une remontée fantastique et un playoff où il a fait plier Daniel Berger. Incroyable. Exceptionnel scénario.
Le Practice RMC.
Avec aux commentaires nos amis de Canal+, oui, un scénario de dingue, hein, pour cette partie, pour ce tournoi Akshay Bhatia flamboyant sur les 9 derniers trous. On va en reparler évidemment, à renverser Daniel Berger pour remporter en playoff à Bayle ce magnifique tournoi. Le Californien de 24 ans a décroché, vous l'avez entendu, son troisième titre sur le PGA Tour. Une cruelle désillusion pour l'Américain qui menait le tournoi depuis le premier jour et qui est toujours en tête d'un succès depuis 5 ans. Mais on était très heureux déjà de le revoir au premier plan. Qu'avez-vous envie de retenir de ce tournoi à Bayle, Simon ?
C'est marrant parce que j'ai passé le week-end à m'ennuyer, ouais, jusqu'à me faire carrément changer de chaîne. Et je suis revenu au bon moment, parce que je regrette pas, parce qu'on a enfin eu ce qu'on aime dans les tournois, un retournement, un peu de suspense, de la dramaturgie. Alors, on est désolé pour ce pauvre Berger qui a joué un golf fabuleux quand même, qui a longtemps été le seul sur un parcours, on va peut-être y revenir, qui est vraiment une horreur à jouer. Enfin, j'imagine, je crois que notre confrère Adrien Toubiana a demandé ce week-end à son consultant combien un amateur... un amateur de handicap 15 enverrait. Et Julien Xanthopoulos disait ce serait certainement au-dessus de 100. Quoi. Bon, on est sur les plus petits greens du PGA Tour. Derrière, il n'y a qu'à Harbour Town et à Pebble qu'il y a des greens plus petits. Bon, si tu n'es pas, bien avec ton jeu de fer, ça peut vite être un carnage, même si on va y revenir, ça s'est joué à l'approche. Bon, ce pauvre Berger méritait de gagner. Je pense, mais ça dit d'autant plus le prodige qu'a accompli Bhatia sur la fin de son quatrième tour. J'ai eu des sensations un petit peu mixtes parce que, je te dis, j'ai eu l'impression que c'était un tournoi sans intérêt, une édition sans intérêt. Et bon, finalement, on s'est un peu moins ennuyé que l'an dernier avec la victoire de Henley. Mais c'est un peu bizarre. Donc, je vais retenir la confirmation du talent un peu électrique d'un Akshay Bhatia qui souvent est capable d'en mettre partout, mais qui confirme que quand il veut, il peut les chatouiller vraiment le très très haut niveau.
Ok, on va y revenir parce que je te sens pas totalement convaincu par ce tournoi, et pourtant c'est l'un des plus beaux tournois du monde, en tout cas réputé comme cela. Médéric.
Un peu comme Simon, en fait, le wedging fait beaucoup de choses. Et c'est vrai que là, quand on voit les stats, c'est assez colossal. Et malgré le fait qu'il a eu un driving qui a quand même été... Bhatia a eu quand même eu un driving extrêmement compliqué.
Cette semaine, c'est
hallucinant. Et au final, son petit jeu, outre son coup du 16, mais son petit jeu lui a permis... là, on parle quand même de plus 16,3 stroke gain autour du green, ce qui est juste énorme. C'est énorme. C'est ce qui a fait qu'il a gagné. Il a pu revenir avec ses 4 birdies de suite, 10, 11, 12, 13. Et forcément, il est passé de 4 coups de retard à l'aller à square départ du 14. Et forcément, là... On en a parlé il y a quelques semaines, mais c'est pas le seul tournoi où on vit ça, et on a effectivement ces retours qui sont très forts et ces joueurs qui parfois vont perdre le playoff alors qu'ils ont tout mené, parce que ça me rappelle quand même, je sais plus quel tournoi, mais il y a quelques semaines on a eu exactement la même conversation où un joueur qui menait depuis le début et qui s'est effondré en fin de tournoi. Et l'autre joueur qui arrivait à fond, qui était en pleine confiance, et c'est exactement ce qu'on a vécu avec Bhatia. Et là où je rejoins Simon également, c'est que c'est pas le premier tournoi sur lequel je vis ça depuis le début de la saison. C'est pas très excitant. Vivement les majeurs, on en parlera plus tard. Mais heureusement qu'il y a ces fins de parcours qui sont un peu sympas, où on a envie de rester. Et il y a un peu de, il y a un peu d'excitation et de retournement. Sinon, ça serait un
sinon
peu
ça fait pchit. Ouais, mais ça, exactement. On va se reposer la question dans quelques instants. Une stat à vous donner parce que tu parlais et on va y revenir de Bhatia autour des greens et sur les greens. Déjà le dimanche, il a rentré 44 mètres de putt. Ce qui est absolument incroyable. Alors, il y a un moment donné, il rentre un peu de 17 mètres. Donc, forcément, ça allonge le. Et sur l'ensemble de la semaine, il a gagné plus de 16 coups sur le reste du champ de joueurs.
C'est ce que je disais, c'est ce que je voulais dire.
Et autour des greens, c'est du jamais vu dans l'histoire du circuit américain.
Je crois que Patrick Reed avait fait ça à Mexico, ou en tout cas s'en était rapproché il y a plusieurs années. Moi, j'ai vu une autre stat là, que les diffuseurs américains passaient. C'est le premier vainqueur, Batia, sur le PGA, qui mène le champ au stroke gain around the green et au stroke gain putting, les deux compartiments, depuis Spieth en 2016 au Century. Donc, sur le tournoi, ouais. Oui, bien sûr.
Parce qu'il est loin, il a la ramasse hein, quand tu regardes ses stats depuis le début de la saison.
Il est 61e around the green et 55e au putting sur la saison.
Ouais. Ouais. Romain.
Eh ben moi, ce que je retiens, c'est que c'est hyper compliqué en fait de gagner un tournoi sur le PGA. Mmh. Franchement, jusqu'au départ du 9e trou, honnêtement, je le voyais pas. Bah tiens, moi pour moi, Berger, il avait gagné, il avait ses 5 ou 6 coups d'avance, et là, il te fait birdie, il enchaîne les 4 birdies de suite, il revient, il met la pression. Berger, il fait un tournoi fantastique. Mmh. Alors il part très très fort, il fait 63 sur la première journée. Il temporise peut-être un peu trop sur la deuxième et sur la troisième, ce qui fait que bon voilà, mais il a encore de l'avance. Et là, il fait une erreur sur son parcours qui va lui coûter super cher, qui va remettre Batia dans la course, et après l'autre il va pas le lâcher. Bon, le 16 il est extraordinaire, son coup est monstrueux, il rentre, et puis après ça doit switcher quoi, et ça part en
même playoff. au 17 son shot il est quand même
énorme,
exceptionnel,
bien sûr il va le chercher, et là Berger qui rate aucun coup, il se met à driver dans le rough il est injouable, et donc derrière il peut pas attaquer le green, et puis ça fait ce que ça donne quoi.
Là tu parles du 18 et on va y revenir sur
le 18 à Bayhill, c'est quand même une horreur absolue quoi.
Quelqu'un l'a joué ici ou pas?
Non,
j'ai pas eu cette chance.
Non. Non, mais ça arrive parfois de vous jouer sur certains parcours. On sait que Fabien Donohue qui n'est pas avec nous.
Oui, ce que j'allais dire. Je pense que Fabien.
J'ai failli dire pour avoir l'avis de Fabien Donohue.
On lui demandera sur ce 18 combien il a fait. Vous pensez qu'il a envoyé un plus 100 ou pas? Non, quand même, pas Fabien. Non.
Ah, Fabien, avec sa longueur, s'il ne met pas son drive dans le décor, à mon avis, il met 4. Hein.
Ouais, mais après, c'est là où je pense que, comme tu disais tout à l'heure, Julien, qui était clairement. Qui pensait que le bon golfeur amateur allait jouer au-dessus de 100, c'est le petit jeu, en fait, qui fait la. Parce que de la mettre loin et droit, la preuve, c'est que Batia est une semaine moyenne, et c'est le petit jeu, souvent, qui pêche pour les golfeurs amateurs, entre guillemets. Lambda, et effectivement, quand ils ont ça, c'est ce qui leur sauve la carte.
Et
sur ces
le petit jeu, Médéric, parce que paradoxalement, c'est impossible de putter finalement sur ces greens. Quand tu vois la fermeté des greens, c'est même pas que ça, la balle roule, ça drift.
Elle change, elle change de trajectoire au dernier moment.
C'est hallucinant.
Ouais. Il y a un truc aussi que j'ai remarqué, moi, c'est la nouvelle génération, là, les Batia, Haber qui arrivent et qui commencent à bien pousser aussi derrière. Et ça m'a pas mal marqué aussi sur ce tournoi-là. Je sais pas si ça vous
déjà,
a marqué,
depuis le début de la saison, je crois qu'il y a 7 vainqueurs de moins de 30 ans sur le PGA Tour. Ouais. Ce qui est assez rare pour le souligner. Mais ça, c'est parce que Scotty Scheffler a peut-être encore goinfré, mais ça, on en reparlera, qui a terminé 24e. Et lui, quand il goinfre, il est juste 4e, ce qui est plutôt pas mal. Non, je voulais vous poser la question de savoir si c'est Daniel Berger qui a goinfré le tournoi comme Sean Lowry la semaine dernière. Je sais que vous voudrez parler de Sean Lowry tout à l'heure, mais est-ce que c'est un peu le même cas de figure ou non? Pour le coup, Batia, là, il est revenu trop fort.
Pour moi, Berger, il est parti très très fort. Il a peut-être été un peu trop prudent sur le troisième, voire le dernier tour, ce qui fait qu'il aurait pu augmenter ou en tout cas accentuer un peu son avance, et c'est ce qui va après il revient de nulle part, il gagne 4, 5, 6 coups en l'espace de 5 trous, c'est
4 birdies,
énorme,
un eagle sur
il peut rien y faire, il fait quand même 70 hein, il joue moins 2 ce qui est pas sur un dernier tour, il est sur la dernière partie, il fait un bon dernier tour, il est dans la gestion
mais surtout c'est un peu un ordinateur quand même. Il étudie vachement ses coups. Tu sens que c'est un mec qui réfléchit beaucoup aux coups qu'il joue. Il joue avec le parcours. Bon, c'est facile de dire ça, mais je trouve qu'il a joué de façon très intelligente et que dans l'exécution, il a été excellent. Quoi.
Il a fait qu'une erreur. Pardon, excuse-moi.
Ouais, c'est laquelle?
C'est son.
Le 18
un petit peu avant, sur le 16, sur le 17, je sais plus.
Quand il se plug dans le bunker.
Ouais, exactement. La balle pluguée dans le bunker qui l'empêche d'après d'attaquer correctement. Là, pour moi, c'est la seule. Et encore, il manque de chance. C'est la seule balle, je crois, du week-end qui est pluguée.
Et encore, il fait que bogey. Hein.
Et il fait que bogey. Mais parce du coup, l'autre, je crois qu'il fait birdie à ce moment-là encore.
Oui, exactement. Ouais,
exactement. Donc il perd deux coups de delta. Et puis, c'est vrai que. On aurait pu se dire qu'il a été trop gestionnaire, il aurait pu en mettre un petit peu pour aller le chercher, mais bon, tu rappelais, il a 5 coups d'avance, 9 à jouer. Bon, ça peut se comprendre d'être dans la gestion, surtout qu'il n'a pas raté un shot de la semaine. Et en plus, il y a peut-être qu'on va y revenir, mais il y a le trou de play-off. Bon, il fait peut-être son pire coup de la semaine, le départ du 18 en play-off. Il se met dans le rough et surtout, il reste très très loin du green. Et il y a la conversation avec son caddie. Ouais. Son caddie, il lui conseille de lay-up. Et il veut pas. Il dit à son caddie, mais enfin, on n'a pas bien eu toute la traduction. Mais en gros, ce que tu comprends, c'est qu'il dit, écoute, gros, je suis en play-off, je vais pas lay-up, c'est play-off.
Soit j'y vais, soit je rentre à la maison.
Donc voilà. Donc il y va. Je me demande s'il aurait pas été mieux dans le bunker finalement que à 35 mètres du drapeau avec putter en main.
Et pourtant, c'est un super putt. Hein.
Mais ouais, ouais, et même mais son shot depuis le rough, qui est vraiment une horreur, il est exceptionnel. Mais bon, c'est difficile, en plus avec la position de drapeau, c'est difficile de faire mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que l'audace, au moment où il a fallu y aller, bon, il était un peu acculé, il l'a tapé le shot qu'il fallait taper, quoi.
Ouais, après Berger, on sent le joueur clairement qui n'a pas gagné depuis un moment, donc plus l'habitude de ces positions-là, là où Batia, quand même, il vient de faire 3-4 années qui sont... Bah, il aurait pu gagner plus, d'ailleurs, parce que parfois il a craqué, ou en tout cas il n'a pas gagné. Exactement. Un play-off contre Scheffler il y a quelques mois maintenant, peut-être même année, parce que ça passe vite. Mais voilà, on sent un joueur qui est en pleine phase ascendante, et puis l'autre qui, effectivement, je pense que c'est peut-être pour ça qu'il a été assez... il a voulu calmer le jeu sur les 9 derniers parce que je pense que pas si simple d'arriver dans cette phase de leader, en position de leader comme ça, et de se dire, ok, qu'est-ce qui va se passer? J'ai pas envie de continuer à accélérer parce que peut-être qu'il était au taquet du taquet.
Et quand ce qu'il a déclaré, Daniel Berger, après ce tournoi, je suis fier de moi, même si j'aurais aimé que les choses tournent en ma faveur. Il y a beaucoup de positifs à retirer de cette semaine. C'est dur de gagner, c'est difficile de se battre. Je pense que j'ai fait ce qu'il fallait. Ça se joue à un coup ici ou là. Moi, je retiendrai quand même que dans la difficulté, au 18, avant le trou de play-off, au 18, il n'est pas bien.
Ouais.
Et il arrive à sauver un par un peu miraculeux parce que, pareil, sa mise en jeu n'a pas été bonne.
Il rentre un putt fantastique. Mmh.
Il rentre un putt très difficile. Et donc, en fait, tu sens le mec qui se bat. En fait, tu ne l'as jamais senti perdre ses moyens. Et comme je disais la semaine dernière ou il y a deux semaines, Sean Lowry, où là, tu sens qu'il craque. Là, tu l'as jamais senti craquer, véritablement.
C'est vrai qu'ils repartent au premier trou de play-off. Pour moi, il n'y en a pas un qui a pris le dessus sur l'autre. Tu vois, il y a Batia qui revient.
La dynamique, quand même.
Mais justement, lui, de rentrer ce putt,
Batia, il est là, il est remonté. Bon, lui, forcément, sa dynamique, elle est plus. Mais lui, il rentre ce putt qui est... Bon, franchement, j'y croyais pas. Je me suis dit, les putts sont tellement durs. Et là, il le rentre, mais tu dois avoir une poussée là-dedans. Hein. Et il y a un truc aussi, moi, qui m'a marqué sur Batia. Tout à l'heure, on en parlait. Là. C'est vrai qu'on s'est un peu ennuyé, tout ça. Enfin, moi, c'est aussi le ressenti que j'avais. Mais sur la fin du parcours, et notamment avec Batia, où j'ai apprécié son jeu, sur le premier trou de play-off, là, Berger, il se met dans le rough, il sort le drive. Alors que je crois que sur le départ du 18, le dernier trou...
Ah, c'est sûr, il n'avait pas joué le drive. Ouais.
Voilà. Et donc là, il sort le driver, alors qu'il a juste à se positionner et tout ça. Donc il y va quand même.
Il est étonnant, il a quand même un mental étonnant, parce que c'est un mec, il faut le rappeler, il a 24 ans seulement. Donc c'est vrai que Médéric disait trajectoire ascensionnelle, mais théorique. Il a 24 ans seulement, mais il faut rappeler qu'il n'a pas le parcours traditionnel. C'était un des meilleurs juniors des États-Unis, mais il a choisi de ne pas aller en NCAA, en université. Il a choisi de passer pro à 17 ans et il est allé se peler les qualifs des Corn Ferry Tour, des machins. C'est pas la cuillère en argent dans la bouche, quoi. Il est allé se la chercher, sa place sur le PGA et ses victoires. Donc forcément, alors je fais de la psychologie à la tronçonneuse, mais je veux dire, c'est un truc qui forcément te forge un mental de galérer, de pas savoir le lundi si tu vas jouer, si tu seras dans le champ le jeudi. Et forcément, quand tu strikes la balle comme il la strike, parce qu'il la secoue, il a une pêche quand même. Il a prouvé qu'il avait aussi des mains et un petit jeu, mais il a quand même sacrément la pêche. Hein.
Médé, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. À un moment donné, le PGA Tour a décidé de faire des tournois signature pour réduire le champ de joueurs, pour ne pas avoir de cut, pour avoir les meilleurs qui se disputent assez régulièrement. Il y en a 6 hein, ou 8 des tournois signature. 8. Et pourtant, on reste quand même un peu sur notre faim en ce début de saison. Il y a une explication à ça ?
Je sais pas parce que est-ce que Simon va pas aimer ce que je vais dire, mais le fait qu'on n'ait pas un leader charismatique sur ce PGA Tour, parce que ce tournoi, il y a quand même l'abandon de Rory, il y a quand même Scheffler qui a montré des signes de tension qu'il a rarement montré. Et je vais pas vous mentir, moi j'ai pris du plaisir à voir ça parce que ça fait du bien de voir ce gars-là qui ne, à mon sens, ne réagit à rien émotionnellement. Et là, même si t'es pas dans une victoire ou un bon coup, de le voir comme ça, je me suis dit, Enfin, le gars réagit, il a balancé sa balle dans l'eau. C'est que vraiment, à l'intérieur, ça devait bouillonner, que ce soit pour gagner ou par mauvais score ou par sensation de pas parfait, j'ai trouvé ça top. Mais on n'a pas ce gars-là, on n'a plus ce gars-là qui prend le dessus et qui donne, qui fait qu'on se lève et qui motive un peu les troupes. Et de l'autre côté, on en parlera sûrement plus tard, il y a d'autres circuits qui, je trouve, à l'inverse, commencent à prendre un peu le lead sur ça. Et peut-être même à se dire qu'on va regarder le golf.
Ah oui, ouais, il me fait clairement. Du teasing pour le livre là. Oui,
mais clairement, c'est voilà. Et je sais pas pourquoi on a plus ce côté. Et on attend tous les majeurs. Moi, j'attends qu'une chose là, potentiellement le player, certes, mais après Augusta et tout le monde attend que ça.
Mais encore une fois, on va revenir à. Moi, je veux bien entendre le Scheffler et je suis.
24
moins près, ouais, et surtout, il est 44 au stroke gain approach, c'est son pire ranking sur un tournoi depuis 2022, ce qui est complètement déglingué, vous en conviendrez, c'est complètement ahurissant. Mais en effet, il s'est mal habitué lui-même, donc il ne reconnaît plus son jeu, et moi j'étais persuadé qu'il allait gagner sur les greens de Bayle, avec entre son jeu de fer et ce qu'on sous-estime très souvent son chipping, j'étais persuadé qu'il gagnait. Mais c'est marrant parce que souvent je défends le fait que ses mouvements d'humeur, ça lui donne du relief et de la personnalité. Moi qui roule pour lui depuis tant d'années, il m'a agacé un peu. Je trouve qu'il m'a agacé parce que on a l'impression qu'il en veut à la terre entière, que machin, que dès qu'il rate un putt, enfin, entre ne montrer aucune émotion et s'agacer dès qu'il rate un putt, moi j'entendais nos confrères de No Laying Up là, ce matin, qui disaient, mec, tu vas pas rentrer tous les putts, quoi. Enfin, c'est normal, tu vas en rater des putts. Il y a des fois, tu vas faire une mauvaise lecture. Et je trouve qu'il perd de l'influx, de l'énergie au mauvais endroit. Cela étant dit, on s'emmerde un peu sur le PGA parce qu'ils sont où les Cantley, les anciens top dogs, tu vois, et Patrick Reed, rendez-nous Patrick Reed, rendez-nous des mecs qui te mettent du relief. On a revu Auberg pointer un petit peu le bout de son nez, je pense que ouais. C'est bon pour la suite, mais Justin Thomas, il envoie plus 13, c'est son retour, ok, mais il envoie plus 13 le premier jour, c'est un carnage,
c'était
les mecs.
C'est pas de sa faute apparemment. C'était
ouais, non, c'est pas de sa faute, c'est jamais de sa faute. Mais. Ce que je veux dire, c'est que les mecs qui ont construit quelque chose, le narratif du PGA, les rivalités, et qui ont du caractère, qui ont machin,
eh ben
ils sont plus là.
Ils intériorisent tout, il n'y a plus d'émotion, ils font des coups extraordinaires, c'est à peine s'ils lèvent le bras. Et en fait, on n'a plus cette émotion-là où, tu vois, un Tiger qui hurlait, qui machin, il jetait sa casse. Là, tu les as plus, quoi.
C'est là où un Batia, pour moi, je suis ravi qu'il ait gagné, mais pour d'autres raisons, mais, mais n'empêche, pour le circuit en lui-même, d'avoir ce vent de fraîcheur. Ça fait du bien. Berger, c'est super, il y aurait une belle histoire.
Mais
à un moment, le lendemain, c'est bête, mais on va moins voir les médias, on communique moins, c'est moins sexy.
Ah, c'est comme Bridgman, c'est des mecs qui, ça manque un peu de charisme. Donc tant qu'ils n'auront pas planté 10 ou 15 tournois en faisant des prodiges, j'aurai du mal à t'identifier, à rouler pour eux. Quoi.
J'entends, mais hormis Scotty Scheffler et Rory McIlroy qui s'est blessé, qui était dans le match, ils sont tous là. Je veux dire, troisième,
Morikawa
Cameron Young,
revient.
Auberg, Morikawa qui a déjà gagné.
Mais Auberg, on l'avait pas vu de la saison, JC. Hein.
Oui, je veux dire, Auberg, tu t'attends à ce genre de performance
ouais,
maintenant.
Okay. Zander, il était là, il est parti.
Hanley, Tigala, il y avait Fowler, Adam Scott, Jordan Spieth, Billy Horschel, Sepp Straka.
Ah, mais tu veux dire dans le champ ou en contention
parce c'est les meilleurs joueurs qui sont
là. C'est les mecs qui
sont
tous là. Straka, il joue en deuxième partie, on l'a pas vu de la journée, il a pas existé. Enfin, je veux dire, c'est des mecs. Ricky Fowler, ça fera plaisir à Ramuncho, il revient, tu demandes ce qui lui manque là pour enfin faire 4 tours solides, mais je veux dire, on a besoin de ces mecs-là, on ne cesse de le dire, parce que sans Ram, sans DeChambeau, sans Cam Smith et sa petite moustache, il manque de l'aspérité, okay. Il manque du caractère, il manque du chien, quoi. Donc, on a souvent souligné, Fabien, il m'a taclé lorsque je disais que les mecs, c'est Mr. Nobody, tu vois, tous ces Américains, les États-Unis te produisent de façon industrielle des joueurs de golf fantastiques, mais t'as besoin d'autre chose. Tiger, il a prouvé qu'il faut autre chose que le niveau de jeu. Voilà, il faut du charisme, il faut un sourire, il faut une gueule, il faut une voix, il faut un body language. Et il faut que, pour cela, parce que quand tu vois des mecs justement faire le fist pump, tu vois, cheer up la foule et tout machin, et ben ça provoque quelque chose. Quand t'entends la foule qui gueule de l'autre côté, et ben ça motive les autres, tu vois. Quand c'est le silence de kermesse, tu vois, ou de sortie de messe, bon, ben évidemment, ça fait réagir personne. Je pense que ça tire le reste du champ vers le bas, quoi.
Ok, les amis. Bon, voilà ce que l'on pouvait dire sur ce tournoi Arnold Palmer Invitational remporté par Akshay Bhatia.